Audiolib présente Dairan, le cycle de l'Empire, tome 1 d'Isaac Asimov. Traduit de l'anglais par Frank Strachitz. Lu par Stéphane Ronchevski. Chapitre 1. La chambre se parlait doucement à elle-même. Cela faisait un petit bruit intermittent, à peine audible mais à nul autre pareil. Et ce chuchotement signifiait « danger de mort ». Ce ne fut pas cela pourtant qui tira Byron Farrill d'un sommeil lourd et nullement réparateur. Il se tournait et se retournait sur l'oreiller dans un combat futile contre le signal sonore qui provenait de la table de chevet. Sans ouvrir les yeux, il tendit une main maladroite et établit le contact. « Allô ?» marmonna-t-il. Un son rauque et puissant sortit instantanément du récepteur, mais Byron n'eut pas le courage de baisser le volume.
« Pourrais-je parler à Byron Farrill ?»
disait une voix. « C'est moi, » dit Byron, la langue pâteuse. Qui est à l'appareil ?
Pourrais-je parler à Byron Farrill ?
Répéta la voix insistante. Byron ouvrit les yeux sur une obscurité impénétrable. Simultanément, il prit conscience de deux faits désagréables. Sa langue était sèche et râpeuse, et une odeur indéfinissable régnait dans la chambre. C'est moi, répéta-t-il. Qui m'appelle ? Sans tenir compte de la réponse, la voix continua de plus en plus tendue, résonnant très fort dans la nuit.
« Passez-moi, Farrill. Je voudrais parler à Byron Farrill. »
Byron se souleva sur un coude et se tourna en direction du visiphone. Au jugé, il frappa la touche « image » et le minuscule écran s'anima. « C'est moi, » répéta-t-il une fois de plus. Il reconnut sur l'écran les traits légèrement asymétriques de Sander Jonty. « Rappelez-moi demain matin, Jonty. »« Demain, » grogna-t-il. Il allait mettre fin à la communication lorsque Jonty insista de nouveau.
« Allô ? Allô, y a-t-il quelqu'un à l'appareil ? Je suis bien à l'université, chambre 526, allô ?»
Byron se rendit brusquement compte que le témoin lumineux d'émission n'était pas allumé. Étouffant un juron, il brancha le circuit, mais le témoin resta éteint. L'appareil était détraqué. Finalement, Jonty abandonna et l'écran ne fut plus qu'un petit rectangle vide. Byron l'éteignit et s'enfuit de nouveau sous les couvertures. Il était furieux. Pour commencer, personne n'avait le droit de le réveiller au milieu de la nuit en hurlant. Il jeta un coup d'œil sur les chiffres luminescents de l'horloge murale. Il était 3h15. Encore près de 4h avant que les lumières ne s'allument dans l'université. Par ailleurs, il détestait se réveiller dans une obscurité totale. Depuis 4 ans qu'il vivait sur Terre, il ne s'était toujours pas habitué aux maisons basses, construites en épais béton armé et dépourvues de fenêtres. Cette tradition millénaire datait de l'époque où les hommes n'avaient pas encore découvert les champs de force pour se défendre contre la bombe atomique. Mais tout cela était du passé. La guerre atomique avait ravagé la Terre, dont la majeure partie était à jamais radioactive et inutilisable. Elle n'avait plus rien à perdre, et pourtant son architecture reflétait les peurs anciennes. Byron se souleva de nouveau sur le coude. C'était étrange. Il attendit, retenant sa respiration. Ce n'était toujours pas le murmure menaçant de la chambre qui avait attiré son attention, mais une anomalie encore plus difficile à percevoir, et certainement bien plus dangereuse. Son épiderme ne sentait plus le léger courant d'air auquel il était habitué, signe tangible du constant renouvellement de ce dernier. Dès qu'il en prit conscience, il eut l'impression que l'atmosphère devenait lourde, oppressante. Le système de ventilation était en panne, et il ne pouvait même pas utiliser le visiphone pour le signaler. Par acquis de conscience, il essaya de nouveau. Le rectangle de lumière laiteuse projeta une lueur nacrée sur le lit. L'appareil recevait, mais se refusait à émettre. Peu importait d'ailleurs,